تيللي ماشي بسان ورفلي روزكاني بنغد سهود تيللي ماشي بسان وشكوى روزكاني بنغد سهود شلغيم ذانن سسويت جحر شاول وغث عذران ورسف شلغيم ذانن سسويت جحر شاول وغث عذران امرت ثره ويذا من مجدني مذنى مجدن ريف ريوران الزير عزيز سوى قسرت كفان اندي يقيم سيسي جارسان سير عزيز سوق سيرتك
Chers auditeurs, bonsoir, c'est GMC+, avec Yves au micro. Ce soir, une émission enregistrée, donc inutile d'appeler le studio. Nonobstant, vous pouvez consulter ma page GMC+, sur Facebook. Nous sommes évidemment sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+, la radio de la Fédération anarchiste. C'est une émission consacrée ce soir à un musicien hongrois. Évidemment, vous aurez deviné, il s'agit de Béla Bartók. Passer à l'œuvre que je souhaite vous diffuser, évidemment, vous proposer. Vous avez évidemment l'obligation d'aller sur la page de la radio de façon à pouvoir télécharger ou réécouter le podcast, de consulter l'agenda de l'ensemble des émissions, et évidemment, dont notamment celle de Jazz Lib, puisque je fais également Jazz Lib. Voilà. Alors, nous allons écouter, dans un premier temps, je vous parlerai de Béla Bartók un petit peu plus tard, si nous avons le temps. Je voudrais surtout m'attarder sur l'œuvre que je vais vous faire écouter. C'est une œuvre qui a été écrite par Béla Bartók le 17 août 1939. Enfin, il l'a composée d'ailleurs en 15 jours. C'est une œuvre absolument incroyable qui a beaucoup beaucoup marqué mon enfance. Et cette œuvre s'appelle le Divertimento pour cordes, pour orchestre à cordes. Alors, il a écrite juste avant son exil aux États-Unis, puisqu'évidemment le fascisme, le nazisme même, arrivait à grands pas dans son pays, puisque, comme vous le savez, la Hongrie a fait alliance avec le nazisme et est entrée dans la guerre en même temps. Donc, là, c'est juste avant son exil à New York, et il va composer cette œuvre en 15 jours, dans le chalet que lui a prêté le chef d'orchestre Paul Sacher, ou Sacher, qui était le chef d'orchestre de l'orchestre de chambre de Bâle. Et donc, voilà, dans la description, Béla Bartók désigne une musique angoissante car elle fait ressentir l'angoisse de l'auteur qui doit retourner à la guerre. En effet, déjà, la guerre de 14-18 n'avait pas été franchement une réussite à tous les niveaux, hein, on sait ce que c'est. Voilà, donc je vous donne, cela dit, quelques informations quand même sur Béla Bartók avant d'aller un petit peu plus dans l'œuvre. Il était né un 25 mars 1880 à Nagyszent Miklós en Autriche-Hongrie, qui s'appelle maintenant Saint-Nicolas-le-Grand en Roumanie, et il est mort à New York le 26 septembre 45 d'une leucémie. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la musique folklorique de son pays, mais nous aurons l'occasion d'y revenir si jamais nous avons le temps. Alors, il a écrit beaucoup, beaucoup d'œuvres, vraiment beaucoup d'œuvres, mais j'ai un amour pour le divertimento, pour diverses raisons personnelles. D'abord parce que c'est une musique assez angoissante. Et alors, c'est une musique qui a été écrite en trois mouvements, Allegro non troppo, Molto adagio et Allegro assai. Alors, en fait, l'œuvre reprend le titre et les mouvements des divertimento du XVIIIe siècle italien, évidemment, avec Béla Bartók, ça va donner tout à fait autre chose. Le compositeur souhaitait un orchestre à cordes symphonique, à défaut un orchestre de chambre avec au minimum 12 violons, 4 altos, 4 violoncelles et 4 contrebasses, en sachant que dans la dénomination 4 altos, il s'agit de violons altos, hein, qui sont un petit peu plus gros et accordés différemment. Le premier mouvement entre les tutti et le concertino laisse peu à peu percer des fortés aigus de la part des cordes, suivi de pianissimo grave qui dramatise et qui en fait s'éloigne complètement de l'aspect purement divertissement du titre. Le mouvement central, qui est plus lent, lui donne une atmosphère très très lourde, avec des contrepoints, entre les violons et les contrebasses, à la manière d'un mouvement central, voilà. Des choses qu'il avait aussi expérimentées avec la musique pour percussion et Celesta. Bon, avec des stridences, voilà. C'est quelque chose d'assez descriptif dans l'angoisse. Et le troisième mouvement prend des rythmes plus endiablés des chants populaires. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est une œuvre qui est très rythmique et qu'on va retrouver dans pas mal de choses, notamment dans le Sacre du Printemps de Stravinsky. On a vraiment une espèce de libération dans cette musique du début du XXe, où il y a peut-être une influence de la technique, de la technologie, comme nous l'avons écouté avec Pacifique 231 lors de la dernière émission d'Arthur Honegger. On retrouve ce principe un peu de cette rythmique qu'on va retrouver évidemment dans le jazz. Alors soit ils se sont inspirés de cet esprit un peu constructiviste soviétique, soit c'est dans l'air, hein, le mécanisme, l'industrie étant là, donc voilà. Je vous ai également choisi une version de 1964 dirigée par Antal Doraty. Alors, quelques mots sur Antal Doraty. Antal Doraty, qui est un chef d'orchestre qui était né en 1906 et mort le 13 novembre 1988, et était un compositeur également, et il est né à Budapest dans une famille juive. Et il a été violoniste de l'Orchestre Philharmonique de Budapest. Il a étudié dans la Franz Liszt Academy, notamment avec Zoltán Kodály, qui a été aussi un des profs de Béla Bartók. Et donc la connexion évidemment avec Béla Bartók a continué pendant beaucoup d'années, où il a donné les premières de certaines de ses compositions, notamment avec le Minneapolis Symphony Orchestra à partir de 1949, puisqu'il a été parti lui-même aux États-Unis, a été naturalisé américain. Il a commencé sa carrière de chef d'orchestre en 1924 à l'Opéra Royal de Budapest. Voilà, et donc là, je vous ai choisi cette version parce que je la trouve vraiment particulièrement superbe. Juste le fait qu'il s'agit de la version donc d'Antal Dorati avec le London Symphony Orchestra.
Thank you.
CGMC+, Radio Libertaire 89.4. Alors, CGMC+, Gabriel, Maurice Claude et les autres. Et donc là, on est évidemment sur les autres avec Béla Bartók et son Divertimento qu'on vient d'écouter, qui est vraiment l'expression de l'angoisse de la montée du nazisme avec l'imminence de la guerre. C'est une œuvre quasiment prémonitoire. Voilà, on ressent toutes les angoisses de l'homme qui va en plus s'exiler pour échapper à cette horreur que va être la Deuxième Guerre mondiale. Alors, puisque nous avons le temps, nous allons maintenant écouter la deuxième œuvre que je vous ai choisie, qui s'appelle Le Mandarin Merveilleux. Alors, le mandarin merveilleux, est ce qu'on appelle un ballet pantomime, en un acte qui a été composé, terminé en 1924. Béla Bartók faire des ébauches en 1918-1919 à partir d'un livret de Meinhard Lengel d'après un conte chinois. Donc il le termine en 24 et il va le créer à l'Opéra de Cologne le 27 novembre 1926. Alors le sujet est particulièrement compliqué pour l'époque. Je vous en ai suggéré dans le titre de l'agenda et de ma page. C'est un sujet qui est franchement cru et érotique et qui va provoquer tout de suite un scandale. Les représentations ont été suspendues par les autorités hongroises qui vont en fait l'interdire. Et donc, Bartók va transformer sa musique en une suite pour orchestre symphonique qui va être créée le 15 octobre 1928. Et il y aura également une adaptation pour deux pianos. Alors, cette œuvre qui donc est composée au lendemain de la Première Guerre mondiale, la même année d'ailleurs que la création de son opéra, qu'il a écrit en 1911, qui s'appelle « Le château de Barbe Bleue ». Donc le Mandarin Merveilleux est le deuxième ballet pantomime de Bartók, après le Prince de Bois qui lui a été monté en 1917, mais qui a été composé entre 1914 et 1916. Alors pour le Mandarin Merveilleux, qui n'est pas du tout aussi merveilleux que ça, il y a différents personnages de l'intrigue qui sont représentés musicalement par les instruments suivants. Il y a une prostituée qui est représentée par la clarinette. Il y a trois souteneurs, représentés par un quatuor à cordes. Il y a deux clients, un jeune et plus âgé, un mandarin, dont les cuivres et principalement les trombones. Alors l'argumentaire est le suivant, vous allez voir, c'est assez sordide. Devant une maison louche des bas-quartiers d'une ville chinoise sordide et chaotique, une prostituée attire les passants vers trois mauvais garçons qui les dévalisent. Deux quidams sans le sou, un vieux beau et un jeune timide, sont refoulés par les voyous. Arrive un riche mandarin, le pigeon idéal, qui se laisse séduire par une danse lascive, une chasse voluptueuse. À trois reprises, par étouffement, coups de poignard et strangulation, les truands essayent d'assassiner le chinois, mais bien que blessé, il semble immortel. Apitoyé, la prostituée chasse ses comparses et s'abandonne dans les bras du mandarin qui, son désir assouvi, succombe à ses plaies. Dans la suite pour orchestre, l'histoire prend fin avant la mort du mandarin. Donc voilà, on est dans le thème Eros et Thanatos. Hein, voilà, donc on comprend que en 1924, c'est plus cher scandale. En quelques mots sur l'orchestration de ce mandarin merveilleux, il oscille entre expressionnisme et impressionnisme. D'ailleurs, on est en plein dans la période de l'expressionnisme allemand, hein, avec des peintres que je vous recommande, avec Oskar Kokoschka, Karl Schmidt-Rottluff, etc., etc. Bref. Il oscille donc entre ces deux expressions avec une touche de surnaturel. Le mandarin est écrit également pour grand orchestre symphonique, Bartók exploitant toute la richesse des matériaux sonores, particulièrement dans l'expansion rythmique. On va évidemment retrouver le côté virulent, frénétique, voire obsessionnel, hein, qu'on a dans le divertimento, qui va se préciser. Voilà, et donc Stravinsky va évidemment, enfin voilà, il y a, je pense qu'il y a une connexion entre tous ces musiciens. Alors l'instrumentation est la suivante. Premier violon, second violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, bois, trois flûtes, la deuxième et la troisième jouant du piccolo, trois hautbois, le troisième jouant du cor anglais. Alors, on dit anglais, mais il n'a rien d'anglais. C'est, je vous l'avais déjà expliqué, hein, c'est le cor anglais, donc l'anche produit un angle. Il y a également trois clarinettes en si bémol, en ré, en la, en mi bémol, et deux clarinettes basses en si bémol, et là, trois bassons, le deuxième et le troisième jouant du contrebasson. Des cuivres, il y a quatre corps, le troisième et le quatrième jouant les tubas ténors, si bémol, trois trompettes en ut, trois trombones, un tuba basse, et des percussions, timbales, xylophones, célesta, caisse claire, grosse caisse, tam-tam, triangle, cymbale. Et il y a dans les claviers, piano, orgue et chœur. Ah oui, il faut noter que Béla Bartok, je dis quelques mots, a commencé par jouer du tambour. En fait, la mère de Béla Bartok, Paola Bartok, était institutrice, et son père était directeur d'une école d'agriculture. Et donc, en fait, ils appartenaient à une petite famille de la noblesse du Borsod. Ils étaient tous hautement instruits. Ils s'intéressaient donc à la musique. Et le premier instrument de Béla Bartok, ça a été le tambour. Et donc, il s'en servait pour battre la mesure lorsque sa mère lui jouait du piano. Voilà. Écoutez, je peux vous donner encore quelques informations. Le problème de Béla Bartok, c'est que son père meurt lorsque Béla a 7 ans, et ce qui oblige sa mère à déménager, à donner des cours de piano en plus de son métier, voilà, donc pour subvenir aux besoins de la petite famille. Il a également une sœur qui s'appelle Elsa, Erzsébet, mais qu'on appelle Elsa, et qui est née en 1885. Donc ensuite, il part s'installer à Nagyzolos, aujourd'hui Vinohradiv, en Ukraine. Voilà. Donc ils sont rejoints par leur tante maternelle Irma, et c'est dans cette ville que Bartok s'essaie dès l'âge de 9 ans à la composition. À 11 ans, Bartok donne son premier concert, l'allegro de la sonate Waldstein de Beethoven, ainsi que l'une des toutes premières compositions, le cours du Danube. Et puis la famille déménage à nouveau de Poznanie, aujourd'hui Bratislava, hein, connue historiquement sous le nom de Presbourg, la capitale de la Slovaquie, qui se trouve à 60 km de Vienne. Laszlo Erkel lui enseigne alors le piano et l'harmonie, et il fait aussi la connaissance d'Erno Donani, excusez-moi pour l'accent, je suis très très mauvais en hongrois, qui rejoint Budapest à l'âge de 17 ans. Et là, il va rentrer à l'Académie royale de musique de Budapest, et il est, comme je vous le disais, élève de Zoltán Kodály, mais d'István Thomann pour le piano, de Hans von Kössler pour la composition. Et là, il va rencontrer, en plus de Donani, Leo Weiner, qui a été également le prof d'Antal Dorati, et Zoltán Kodály. Weiner et Kodály, eux aussi, étaient élèves de Kössler, Donani et Thomann. Voilà, et c'est là, avec Zoltán Kodály. Alors, Zoltán Kodály, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rencontre du troisième type, mais il y a des notes fondamentales, et en fait, elles sont inspirées dans le film par une théorie de Zoltán Kodály. Bon. Et donc, c'est avec lui que Bartok commence à recueillir la musique folklorique hongroise. Auparavant, en fait, l'idée de la musique folklorique hongroise se fondait sur des mélodies tziganes qui étaient interprétées par Franz Liszt. Mais en 1903, il avait écrit un grand travail orchestral, Kossuth, qui fut donné à Budapest. Alors, on peut dire que ses premières inspirations, influences, viennent de Brahms et d'Erno Donani. Excusez-moi. En 1902, il écoute la composition de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra, et qui va l'enthousiasmer. Et donc, il étudie cette œuvre assidûment, Et à la même époque, il se joint au courant nationaliste hongrois, alors en plein essor. Alors il faut relativiser quand on parle de nationalisme, hein, ici à la radio, Radio Libertaire. Il s'agissait surtout d'avoir une identité dans la musique populaire hongroise. Enfin, la musique populaire hongroise venait, et c'est plutôt une démarche scientifique de la part de Béla Bartók, qui veut en fait faire une sorte de répertoire de la conscience. Il a conscience de la nécessité de sauvegarder la mémoire musicale traditionnelle qui évidemment n'était pas écrite, et donc en fait il va plutôt fonctionner comme un ethnographe et un ethnomusicologue, et en fait il va aller s'apercevoir que rapidement toute cette influence va s'étendre à pratiquement toute la musique traditionnelle européenne, et même un peu au-delà. Donc nous sommes bien sur GMC+, Radio Libertaire 89.4, et nous allons maintenant, je vous ferai quelques commentaires supplémentaires sur Béla Bartók, nous allons maintenant écouter ce mandarin merveilleux dont le destin tragique est exprimé par l'ensemble de cet orchestre. C'est parti. Thank you. Vous êtes sur Radio Libertaire, c'est GMC+, et nous commençons à explorer Béla Bartok, dont l'immense répertoire pourrait nous laisser y passer au moins plus d'une année. Mais bon, quelques petits mots encore sur Béla Bartok. Il va enseigner de 1907 à 1934 le piano à l'Académie royale de Budapest. En 1907, il écrit 3 chansons populaires hongroises et l'année suivante, il compose son quatuor à cordes numéro 1. Et en 1909, il va épouser sa très jeune élève, Martha Ziegler, qui est âgée de 16 ans et qui, un an plus tard, va lui donner un fils qui va s'appeler également Béla. Voilà, en 1911, il présente ce qui devrait être son seul opéra, Le Château de Barbe Bleue. Mais le gouvernement lui demande de retirer le nom du librettiste Béla Balash. Pendant la Première Guerre mondiale, il va écrire les ballets Le Prince de Bois et donc Le Mandarin que nous venons d'écouter, suivi par 2 sonates pour violon et piano qui sont parmi les pièces les plus complexes qu'il ait écrites. En 1917, il va écrire son deuxième quatuor à cordes et il participe aux activités du Cercle du Dimanche, groupe de réflexion philosophique et artistique créé à Budapest par George Lucas, pas le même que le réalisateur, et Karl Mainham. Voilà, en 1923, il va divorcer de Martha et il se remarie avec une autre élève, Edith Pastori, plus connue sous le nom de Dita Pastori. Voilà, donc lui, il a 42 ans, elle en a 20. Et ensemble, ils vont faire des tournées en Europe lors de concerts pour 2 pianos. Leur fils, Peter, voit le jour en 1924. En 1927-28, il compose ses 3e et 4e quatuors à cordes qui sont considérés comme étant parmi les plus importants quatuors jamais écrits en musique classique, si on peut appeler Bartok du classique. Voilà, donc à la suite desquels son langage harmonique va commencer à se simplifier. Le quatuor à cordes numéro 5 en 1934 est de ce point de vue d'une écriture dite plus traditionnelle. En 1935, il arrête d'enseigner le piano parce qu'il a beaucoup de commandes régulières. Et voilà. Mais la Seconde Guerre mondiale va bouleverser toute sa vie. En 1936, il compose sur à la demande de Paul Sacher, donc le chef d'orchestre de Bâle, musique pour cordes, percussions et célestins, qui va être créé le 21 janvier par son commanditaire et que nous écouterons dans une prochaine émission. Mais je voudrais pour finir, avant de passer la parole à Epsilonia et de nous retrouver dans un mois et dans une semaine pour Jazz Lib, des pièces pour piano tirées de son œuvre Microcosmos, qui est en fait une série de 153 petites pièces pour piano qui se déclinent en 6 volumes de difficultés croissantes, composées dans un but pédagogique pour son deuxième fils Peter, né en 24, comme je vous le disais. L'ensemble a été publié en 1940. Le mot microcosmos signifie petit monde en grec et peut donc en fait s'interpréter comme une série de pièces de style différent. Selon Bartok, ce titre peut aussi se comprendre comme le monde des petits enfants. Pardon. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est 6 danses hongroises tirées donc de ce microcosmos par Béla Bartok lui-même au piano, d'un enregistrement qui date de 1940, qui est absolument incroyable. Et donc vous allez pouvoir comprendre pourquoi j'ai fait cette émission, pour vous donner en fait dans toutes ces correspondances de ces musiciens, de Ravel, Debussy, Fauré, et puis évidemment Bartok, mais d'autres, nous verrons éventuellement avec Edwin Arteres, à quel point il y a une influence sur le jazz. Alors, soit les jazzmen s'en sont inspirés, évidemment, soit les compositeurs se sont inspirés du jazz, évidemment, Shostakovich avec son thème jazz. Mais là, dans ces pièces pour piano, il y a quelque chose qui représente des jeux rythmiques et harmoniques qu'on va retrouver complètement chez Monk, chez Bill, chez Duke Ellington. Enfin bon, c'est évident que eux-mêmes ont écouté ça et à quel point ils se sont influencés les uns les autres. Et voilà, c'est donc un document tout à fait exceptionnel que je vous propose en cette fin d'émission. Vous allez voir, c'est absolument sidérant de modernité dans tous les sens du terme. Alors évidemment, le son n'est pas très bon, ça date de 1940, mais bon, que voulez-vous, c'est mieux que... Voilà, c'est un document, et il faut le prendre en tant que tel. Voilà, donc rendez-vous dans une semaine pour Jazz Lib, dans un mois pour GMC+, Fraterni Swing, soyons forts contre l'adversité, et bonne musique. Alors, j'ai dit une grosse bêtise et je vous prie de m'excuser, mais il ne s'agit pas des danses hongroises, ma langue a fourché, mais ce sont des danses, 6 danses bulgares. Et alors, la dénomination exacte en anglais, c'est 6 dances in Bulgarian rhythm, c'est-à-dire en rythme bulgare. Donc vous allez voir qu'à un moment donné, une des danses, ça n'a rien à voir avec la Bulgarie, c'est vraiment tout à voir avec le jazz. Hein. C'est très 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 clair à ce point. Voilà, je vous prie de m'excuser. Donc maintenant, place à Bartok lui-même au piano sur ces 6 danses bulgares. Et j'aurais rectifié pour éviter de me faire incendier. Fraterni Swing. Thank you.
de ça.
Aujourd'hui, vous êtes à Radio Libertaire, ne l'oubliez pas, monsieur. Aujourd'hui, vous êtes à Radio Libertaire, ne l'oubliez pas, monsieur.
C'est l'heure d'Epsilonia.
Téléphone.
Et soudain, tout disparaît. Dans un flamboiement rouge qui embrase le ciel, le parfum s'élève et retombe sur la terre ferme, dans l'angle mort de la pierre. L'emboiement rouge qui embrase le ciel, le parfum s'élève et retombe sur la terre ferme, dans l'angle mort de la pierre. Tout le monde est sain et sauf. Le bien a enfin triomphé.
Salut à tous, c'est Epsilonia Electron Libre, les électrons libres ce soir qui reviennent avec JB au micro et François à la technique, comme d'habitude tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Et ce soir, on écoutera Amandoul pour commencer, Amandoul 2, plus KGNO, Ivo Malek dans le désordre, Jean-Luc Godard, Xenakis, Yoshko Sefer, Chris Watson, enfin plein de choses tout à fait intéressantes, vous allez voir. On se retrouve juste après Amandoul 2 qui va débuter cette émission. À tout de suite.